Vous avez entendu cette histoire d'un élève de 15 ans du Saguenay qui a envoyé une mise en demeure à sa commission scolaire, jugeant inconstitutionnelles les restrictions concernant l'utilisation du cellulaire en classe. Ce jeune homme-là, de 15 ans, j'insiste, jeune secondaire, là, Vincent Duguay, veut qu'on arrête de confisquer les cellulaires des élèves au-delà des heures de classe, ce que les enseignants peuvent faire pendant 24 heures à son école. Ça veut dire que tu te présentes en classe, tu utilises ton téléphone cellulaire en cours. Le prof a le droit, à l'école, de dire « je prends ton téléphone, je te l'enlève pour 24 heures ». Et lui dit « c'est inconstitutionnel ». Il a 15 ans, il est bien au courant de son affaire. Il a donné une entrevue au collègue Paul Arcand ce matin au 98.5. Écoutez-le expliquer son argument, sa lecture des événements en partant.
Dans la Charte des droits et libertés de la personne, il y a à l'article 6 le droit à la libre disposition de ses biens qui est inscrit. Donc ça comprend le droit de propriété en général, le droit d'user de ses biens de la manière qu'on veut et de les conserver. Donc ça, c'est sûr et certain qu'on puisse qu'un cellulaire pour 24 heures, ça porte atteinte à ce droit. Dès que vous prenez quelque chose sans la permission de la personne, même si c'est une conséquence d'un acte, ça reste une atteinte au droit de propriété. Maintenant, est-ce que c'est illégal? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Il y a certains critères pour voir si c'est illégal ou non. Il faut que ça soit un objectif réel et urgent qui est poursuivi par la limitation. Il faut que la limitation du droit fondamental ait un lien rationnel avec l'objectif. Il faut que ça soit c'est important, le moyen qui porte le moins atteinte aux droits fondamentaux d'atteindre l'objectif. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans ma mise en demeure. Et finalement, il faut que les effets négatifs de la disposition soient inférieurs aux effets positifs. Si une seule de ces règles-là n'est pas respectée, la disposition est inconstitutionnelle et elle doit être rédigée d'une manière différente.
OK. Avant d'y aller dans pour ou contre, je vous rappelle, il a 15 ans. C'est un élève du Saguenay à l'école Charles Gravel. Il est vraiment, vraiment au courant de son projet, c'est ce que j'ai envie de dire, de ses droits. Plus tard, dans l'entrevue, il doit expliquer pourquoi ses parents l'appuient dans la démarche. Parce que c'est la loi.
Oui, effectivement, parce qu'à cause de l'article 159 du Code civil, je peux pas soumettre une cause moi-même parce que j'ai pas la capacité juridique de le faire. Donc, mes parents doivent signer la lettre en bas et officiellement, c'est en ma qualité de tuteur, c'est eux qui intentent le recours.
OK. Vos parents, est-ce qu'ils sont avocats par hasard?
Pas du tout. C'est ça que je dis depuis ce matin dans les entrevues que je fais. Non, j'ai personne dans ma famille, dans mes parents, dans les amis de mes parents qui est avocat. Je connais aucun avocat de près ou de loin, là. C'est vraiment juste moi qui ai décidé de s'intéresser au droit comme ça.
OK. Avez-vous l'intention de faire votre cours de droit?
Oui, ça, c'est sûr et certain. Une fois rendu à l'université, oui, j'aimerais bien ça.
Je pense que vous avez une bonne base.
Il y a des bonnes aptitudes, t'as raison. Alors, c'est pour ça que la mise en demeure, elle est signée par ses parents.
On peut à tout le moins admirer le bagou puis la fronde et les capacités de s'exprimer. Il y a des adultes de 30, 40, 50 ans qui sont pas à l'aise comme ça à la radio et qui ont pas ce vocabulaire. Là.
Et il y a pas peur du débat parce qu'il faut aller voir sa page Facebook pour voir que les avis diffèrent, évidemment.
Ouais, ben oui.
Mais il répond élégamment. Puis si le débat est constructif, il continue dans les arguments. Si c'est de l'insulte, il s'en va tout simplement. Il semble avoir beaucoup de classe. Mathieu, tes parents, t'écoutaient son argumentaire. Tu réagissais fortement.
Non. Ça marche pas, cette affaire-là.
Ça marche pas, cette affaire-là.
Garde bien, là. OK? T'es à l'école. Je comprends que ton cellulaire, tu l'aimes. Moi aussi, je l'aime, mon cellulaire. C'est vrai que des fois, il faut que je me fasse violence pour m'en séparer parce que c'est un bon entertainment. Mais c'est justement parce que c'est un bon entertainment qu'il y a des moments où il faut qu'on puisse, contre ta volonté, s'il le faut. On aimerait mieux que tu sois d'accord puis tu le laisses dans une espèce de casier à l'entrée de la classe, là.
Oui.
Mais là, tu es en train de m'obstiner puis tu te dis non, tu veux le garder, là. Mais là, regarde, le boss, c'est le prof. Le prof, il dit non. Puis c'est demain.
Oui. D'ailleurs, okay? L'idée
dans
du casier.
Dans ton intérêt, si tu le comprends pas tout de suite, tu le comprendras tantôt. Mais là, ça suffit, là. Les histoires de droit puis de 59 puis de l'article coin-coin. Non, ça suffit. T'es à l'école, c'est ça que t'as à faire. C'est ça ta job.
L'idée du casier où on laisse le téléphone cellulaire avant d'entrer dans la classe ou que c'est le prof qui gère le casier ou le panier sur le bureau, lui, il est tout à fait en faveur de ça, là, dans son argumentation. D'ailleurs, lui-même n'utilise pas son téléphone cellulaire à l'école. Mais là, on va ouvrir la discussion avec Thierry Carcenti, qui est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Bonjour, monsieur Carcenti.
Bonjour.
Alors, certains enseignants parlent vraiment d'un fléau avec le cellulaire, que les élèves du secondaire entrent dans les salles de cours. Est-ce que c'est une distraction pure et simple? Comment agir avec ça?
Ben, c'est un défi complexe. On a de plus en plus d'élèves du secondaire qui ont un téléphone cellulaire, qui l'utilisent en classe même quand c'est interdit. Et donc, on a des élèves qui, au lieu d'être sur les bancs d'école en train d'apprendre ou de travailler, ben, font autre chose. Et puis, c'est pas des téléphones cellulaires où est-ce qu'on faisait juste texter comme avant. Ce sont des téléphones intelligents où est-ce qu'on a des réseaux sociaux, alors Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux sur lesquels les jeunes sont. Ça fait énormément de distractions en salle de classe. Des distractions qu'on n'avait pas avant l'apparition de ces téléphones-là en salle de classe. Alors, pour les enseignants, c'est tout un défi. Comment on fait pour enseigner des règles de grammaire ou des problèmes de mathématiques quand le jeune est devant lui, tous ses réseaux sociaux avec plein de notifications. Tout un défi.
Vous avez réfléchi sur le problème. Quelle est la solution?
Bien, la solution n'est pas simple, mais ce qui est certain, en tout cas, dans les recherches et puis l'histoire de l'humanité nous le montre, la simple interdiction ne fonctionnera pas. Et là, je ne parle même pas pour des questions légales, comme le jeune adolescent qu'on a entendu plus tôt, qui, pour des questions de droits et libertés, voudrait avoir son téléphone. Mais au-delà de ça, l'interdiction ne fonctionne pas. Les écoles qui interdisent le cellulaire, comment fait-on si on ne veut pas fouiller tous les élèves pour être certain qu'ils ne l'ont pas sur eux? Les enquêtes qu'on a réalisées nous montrent que les élèves trouvent des façons de l'apporter en classe et de le consulter en salle de classe. Moi, je pense que le cellulaire, il faut l'aborder dès l'école primaire pour sensibiliser les élèves aux usages des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne devrait pas faire en salle de classe et que ça doit se poursuivre au secondaire. L'école a une vocation d'éducation. Puis, il n'y a personne qui éduque les enfants par rapport aux usages des téléphones cellulaires ou des réseaux sociaux.
Ah ouais.
On leur montre pas comment faire au primaire, on leur montre pas au secondaire. Et à l'université, on se retrouve avec des problèmes similaires. On a des étudiants qui, pendant les cours, font autre chose avec leur téléphone cellulaire, leur ordinateur ou leur tablette.
Donc, une espèce de cours de savoir-vivre avec le cellulaire ou des ateliers qu'on offrirait aux tout jeunes, parce que visiblement, les parents eux-mêmes n'arrivent pas des fois à passer la connaissance ou ne connaissent pas justement le savoir-vivre et le savoir-être avec le cellulaire.
Ben, les parents sont démunis parfois par rapport à ça, mais moi je pense, comme on l'a fait il y a plusieurs années, vous savez, il y a eu une époque où les enseignants fumaient en salle de classe, hein, c'était permis. De nos jours, on raconte ça, les gens disent, mais non, c'était impossible, mais oui, il y a plusieurs années, ça se faisait. Moi, je pense que le cellulaire, là, même chose, on peut arriver à sensibiliser les gens, montrer qu'il y a des avantages, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui les utilisent aussi à des fins pédagogiques. On amène les élèves à faire des recherches d'informations, à répondre à des questions. C'est pas uniquement un fléau en salle de classe, mais ce qui est certain, c'est que pour les élèves, ça peut être une source de distraction. Il y a plusieurs façons de faire pour contrer ça. L'idée d'avoir un panier en classe ou à l'extérieur de la classe, c'est une idée. Mais faire confiance aux ados, c'est leur mettre beaucoup sur les épaules parce que c'est tentant pour eux quand tu as toutes ces notifications qui apparaissent. Donc, une espèce de cours sur comment utiliser les réseaux sociaux, une espèce de cours de citoyenneté numérique et dont fait partie justement l'usage du cellulaire.
Qui va trouver la solution? Est-ce que c'est le ministère d'Éducation qui va intervenir? Est-ce que ce sont les jeunes eux-mêmes qui pourraient trouver la solution?
Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher un seul responsable de la situation. M. Proulx, quand il a été interrogé là-dessus, il a dit qu'il n'y aurait pas d'interdiction comme ils l'ont fait en France. Et moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Une interdiction, comme vous savez, en France, ils s'en viennent avec ça. Ils vont interdire l'usage des cellules en salle de classe. Moi, j'ai du mal à voir comment ils vont gérer la chose. Moi, je pense que les écoles doivent avoir des règles, parce que l'absence de règles, pour moi, ça ne fonctionnerait pas. Des règles qui soient quand même flexibles, mais des règles où est-ce qu'on veut aussi pas juste punir, pas juste sévir, pas juste confisquer, mais on voudrait aussi éduquer les jeunes. C'est la mission de l'école, leur montrer quels usages éducatifs on pourrait faire, leur montrer dans quelle situation on ne devrait pas l'utiliser. Et moi, je crois qu'éventuellement, ben, on aurait des générations qui apprendraient à mieux l'utiliser. Votre collègue disait tout à l'heure qu'il ne pouvait pas s'en passer. Ben, moi, je pense qu'à l'école doit jouer un rôle là-dessus. Ça serait peut-être bon des moments, des fois, en famille, sans le téléphone ou entre amis, sans le téléphone. Ben, peut-être que ça s'apprend à l'école tranquillement, puis peut-être que dans 10 ans, ben, là, les gens, ils vont comprendre qu'il y a des moments sans cellulaire et des moments avec. Maintenant, c'est certain que ce qu'il a fait, ça va interpeller énormément d'écoles qui ont cette pratique de confisquer les téléphones cellulaires. Et l'idée, bon, ben, c'est à ce moment-là, si c'est une question de loi, ben, peut-être que les autres écoles, ils trouveront d'autres punitions. Il y a des retenues le samedi. Il y a plein de variétés de punitions qu'on peut faire aussi quand des élèves ne respectent pas les règles. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de punir, c'est de prévenir avant que ça arrive. Et donc, quelque chose de positif, tentons de sensibiliser les jeunes. Impliquons-les dans la mise en place de règles. Peut-être que si on implique les jeunes d'une école, ils vont être plus enclins à suivre des règles, alors que quand ils se les font imposer, des fois, ils sont moins enclins à les suivre.
Est-ce que vous savez, monsieur, s'il y a des démonstrations claires et nettes, objectives, vérifiables, qui ont un impact sur les notes des enfants, des étudiants, depuis que c'est...
Écoutez, nous, on a fait des enquêtes et on peut vous dire qu'il y a d'excellents élèves à l'école qui utilisent abondamment leur cellulaire et il y en a des très mauvais qui l'utilisent aussi. Je pense que la différence, c'est que les bons élèves vont éventuellement arriver à se contrôler quand c'est le temps des devoirs. Parce que c'est pas juste à l'école le problème. Quand tu arrives à la maison et que c'est le temps de faire des devoirs, il y en a qui sont juste sur leur cellulaire et qui font pas plus leurs devoirs aussi. Là, c'est pas le problème n'est pas limité à la salle de classe, c'est tout partout. On voit des jeunes, regardez dans les cours d'école secondaire, regardez à l'extérieur, ils sont sur leur cellulaire. Alors le problème, c'est pas uniquement à l'école. Un jeune qui est toujours sur son cellulaire le soir ne fera pas ses devoirs non plus. Donc, la question d'apprendre à l'utiliser, c'est important. Et donc, les recherches, oui, quand il y a des abus dans l'usage du téléphone cellulaire, oui, il y a des à ce moment-là, il y a un impact sur la fatigue, il y a un impact sur le manque de sommeil, il y a un impact sur les notes. Mais avec un usage en classe, il y a des bons élèves qui l'utilisent discrètement à l'occasion, puis il y a des mauvais élèves aussi qui l'utilisent. Donc, il y a des deux côtés là-dessus. Mais pourquoi ne pas regarder les usages positifs? Il y a des enseignants qui l'utilisent, encore une fois, ils amènent les élèves à faire des recherches sur Internet, à répondre à des questions. Ça change un peu, c'est différent, c'est motivant pour les jeunes. Je pense que ça pourrait avoir un impact plus intéressant aussi.
Oui, puis apprendre à se discipliner, justement, quand il y a une notification, il ne faut pas nécessairement courir pour aller voir, puis aller voir notre Facebook constamment.
Ouais. Ils sont tentés, les jeunes. Ah, les jeunes qu'on rencontre...
Et nous aussi, on est tentés.
On n'est pas mieux, là.
Puis non seulement ils sont tentés, mais vous savez, quand on reçoit une notification, les jeunes sont contents, ça fait plaisir. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que...
Ah, il y a une gratification, oui.
Ben oui, exactement. On reçoit une notification, on est content. Alors, ils sont contents, donc on va les voir. Et là, c'est une espèce d'engrenage. On met une image sur Instagram, il y a des gens qui l'aiment, on va aimer les images des autres, et là, on a les textos, on a les messages sur Facebook. Ça fait énormément de gestion à faire. Mais comme j'ai dit, j'étais content de l'écouter, le jeune en question. Puis pour des questions de principe, bon, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, mais il s'exprime très, très bien. Et puis peut-être qu'il pourrait envisager une carrière en politique. Il y a des sièges qui sont disponibles un peu partout au Québec actuellement.
Pour l'instant, c'est le droit qui l'intéresse. On verra ce qu'il va faire avec ça. Monsieur Carcenti, merci.
Merci à vous. Au revoir.
Thierry Carcenti, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal.
Mais je peux dire qu'effectivement, Vincent Duguay, là, le jeune de 15 ans du Saguenay, là, il parle comme certains députés peuvent jargonner des fois quand ils veulent pas répondre aux questions, avec des mois sans piastres.
On chialera pas contre ce jeune-là de 15 ans.
Non, il parle comme du monde.
Bravo. On s'arrête parce qu'on va aller voir dans nos notifications si on n'a pas des choses dans le téléphone.